Chapitre 27. La dernière cachette. Il n'existait aucun moyen de diriger le dragon. Il ne pouvait voir où il allait et Harry savait que, s'il prenait un virage brusque ou se penchait un peu trop, il ne parviendrait pas à s'agripper plus longtemps à son large dos. Pourtant, alors qu'il montait de plus en plus haut, Londres s'étalant au-dessus d'eux, telle une carte routière gris et vert, Harry éprouvait surtout un sentiment de gratitude à l'idée d'avoir réussi une évasion qui leur avait paru impossible. Accroupi sur le cou de la bête, il se cramponnait aux écailles métalliques et la brise fraîche soulageait sa peau brûlée, boursouflée, les ailes du dragon battant l'air comme un moulin à vent. Derrière lui, il ne savait si c'était dû à la joie ou à la terreur. Ron ne cessait de jurer de toute la force de ses poumons et Hermione semblait sangloter. Au bout de 5 minutes environ, les craintes de Harry s'atténuèrent. Apparemment, le dragon n'avait pas l'intention de les précipiter dans le vide. Il paraissait surtout décidé à s'éloigner le plus possible de sa prison souterraine. La question de savoir quand et où ils pourraient descendre de leur monture restait cependant préoccupante. Harry ignorait quelle distance les dragons pouvaient parcourir en volant avant d'être obligés d'atterrir. Il ne savait pas non plus si celui-ci, qui voyait à peine, serait capable de trouver un bon endroit où se poser. Il regardait constamment autour de lui, s'imaginant que sa cicatrice avait recommencé à le picoter. Combien de temps se passerait-il avant que Voldemort apprenne qu'ils avaient pénétré dans la chambre forte des Lestrange? À quel moment les gobelins préviendraient-ils Bellatrix? Quand allait-il identifier l'objet qu'ils avaient emporté? Et lorsqu'il découvrirait qu'il s'agissait de la coupe d'or, Voldemort saurait enfin qu'ils étaient partis à la chasse aux Horcruxes. Le dragon semblait avide de respirer un air plus frais, plus froid. Il s'éleva régulièrement jusqu'à ce qu'il traverse des volutes de nuages glacés et que Harry ne parvienne plus à distinguer les petits points colorés que représentaient les voitures dont le flot se déversait en tous sens autour de la capitale. Ils continuèrent de voler au-dessus de la campagne, morcelés en taches vertes et marron, au-dessus de routes et de rivières qui serpentaient dans le paysage comme des morceaux de ruban mat ou brillant.
« À ton avis, qu'est-ce qu'il cherche ?»
cria Ron, tandis qu'il s'éloignait de plus en plus vers le nord.
« Aucune idée !»
répondit Harry, obligé de crier lui aussi. Ses mains étaient transies par le froid, mais il n'osa pas changer de position. Il s'était demandé pendant un moment ce qu'il ferait s'il voyait la côte apparaître, si le dragon se dirigeait vers la pleine mer. Harry était glacé, engourdi, sans parler de la faim et de la soif qui le tenaillaient. « Quand, songea-t-il, la bête elle-même avait-elle pris son dernier repas ?» Bientôt, elle aurait sûrement besoin de se sustenter. Que se passerait-il alors si elle s'apercevait tout à coup que 3 humains parfaitement comestibles étaient assis sur son dos? Le soleil descendit plus bas dans le ciel qui se teintait à présent d'une couleur indigo. Le dragon continuait de voler. Villes et villages se succédaient au-dessous d'eux, son ombre immense glissant à la surface de la terre à la manière d'un gros nuage noir. Harry avait mal partout, crispé par l'effort qu'il devait faire pour rester agrippé à la créature.
« Est-ce mon imagination ?»
cria Ron, après une très longue plage de silence.
« Où est-ce qu'on perd de l'altitude ?»
Harry baissa les yeux et vit des lacs et des montagnes d'un vert foncé qui prenaient une teinte cuivrée dans le soleil couchant. Le paysage semblait grandir. Harry, penché par-dessus le flanc du dragon, en voyait mieux les détails, et il se demanda si la créature avait deviné la présence de l'eau fraîche grâce au reflet du soleil qui parsemait sa surface. De plus en plus bas, le dragon descendait dans une vaste spirale, visant apparemment l'un des plus petits lacs.
« Dès qu'on sera suffisamment prêt, on saute !» cria Harry par-dessus son épaule. « Droit dans l'eau, avant qu'ils s'aperçoivent qu'on est là !»
Les 2 autres approuvèrent, Hermione d'une voix un peu éteinte. Harry voyait à présent le large ventre jaunâtre du dragon se reflétait dans l'eau ridée du lac.
« Maintenant !»
Il glissa du flanc de la créature et se laissa tomber les pieds en avant. La chute fut plus longue qu'il ne l'avait prévu, et il heurta l'eau violemment, plongeant comme une pierre dans un monde glacé, verdâtre et peuplé de roseaux. D'un coup de pied, il remonta vers la surface et émergea à l'air libre, haletant. Il vit alors d'énormes ondulations se propager en cercles concentriques depuis l'endroit où Ron et Hermione avaient atterri. Manifestement, le dragon n'avait rien remarqué. Il était déjà à une quinzaine de mètres, volant bas au-dessus du lac, et se désaltérait en trempant dans l'eau son museau balafré. Pendant que Ron et Hermione émergeaient à leur tour des profondeurs, suffoquant et crachotant, le dragon poursuivit sa course à grands battements d'ailes et se posa enfin sur un rivage lointain. Harry, Ron et Hermione se dirigèrent vers la rive opposée. Le lac semblait peu profond et bientôt ils s'aperçurent qu'il s'agissait beaucoup plus de patauger dans la boue et les roseaux que de nager. Trempés, pantelants, épuisés, ils finirent par regagner la terre ferme et s'effondrèrent dans l'herbe humide. Hermione, toussant et frissonnant, resta étendue par terre, à bout de force. Bien que Harry se fût volontiers endormi sur place, il se releva péniblement, sortit sa baguette et jeta autour d'eux les habituels sortilèges de protection. Lorsqu'il eut terminé, il rejoignit les autres. C'était la première fois qu'il les regardait vraiment depuis leur évasion de la chambre forte. Tous deux avaient des brûlures rougeâtres à vif sur le visage et les bras, et leurs vêtements étaient troués par endroits. Avec des grimaces, ils appliquèrent de l'essence de dictame sur leurs nombreuses plaies. Hermione tendit le flacon à Harry et sortit trois bouteilles de jus de citrouille qu'elle avait emportées de la chaumière au coquillage, ainsi que des robes propres et sèches pour chacun d'eux. Ils se changèrent et burent le jus de citrouille à grands traits.
L'aspect positif,
dit enfin Ron, qui s'était assis par terre et regardait la peau de ses mains se reconstituer, c'est qu'on a réussi à trouver leur crutte. L'aspect négatif, c'est qu'on n'a plus d'épée, acheva Harry, les dents serrées. Il laissait tomber des gouttes de dictame sur une brûlure à vif qui paraissait à travers un trou de son jean.
Plus d'épée, répéta Ron. Cet ignoble petit traître.
Harry sortit l'horcrux de la poche de son blouson mouillé qu'il venait d'enlever et le posa sur l'herbe, devant eux. La coupe étincelant au soleil attirait leurs regards tandis qu'ils vidaient leurs bouteilles de jus de citrouille.
Au moins, on ne peut pas la porter sur nous. Cette fois, on aurait l'air un peu bizarre avec ça accroché autour du cou,
fit remarquer Ron en s'essuyant la bouche d'un revers de main. Hermione observait la rive opposée du lac où le dragon était toujours en train de boire.
« Qu'est-ce qui va lui arriver ? » demanda-t-elle. « Vous croyez qu'il va s'en sortir ?»«
Oh, on croirait entendre Hagrid, » répliqua Ron. « C'est un dragon, Hermione. Il peut se débrouiller tout seul. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour nous. »«
Qu'est-ce que tu veux dire ?»«
Je ne sais pas comment t'annoncer la nouvelle, » répondit Ron. « Mais il se peut qu'ils aient remarqué qu'on était entrés chez Gringotts par effraction. »
Tous trois éclatèrent de rire, un rire difficile à contrôler une fois qu'il avait commencé. Les côtes de Harry lui faisaient mal, la faim lui donnait le tournis, mais il resta allongé dans l'herbe sous le ciel rougeoyant, à rire jusqu'à en avoir la gorge irritée.
« Qu'est-ce qu'on va faire ?»
dit enfin Hermione, qui s'efforçait à travers ses hoquets de retrouver son sérieux.
« Il va savoir maintenant, non ?»
Vous savez qui va savoir qu'on est au courant de ces horcruxes ?
Peut-être qu'ils auront trop peur pour le lui dire, suggéra Ron avec espoir. Ils voudront étouffer l'affaire.
Le ciel, l'odeur du lac, le son de la voix de Ron, tout s'éteignit soudain. La douleur fendit en deux la tête de Harry comme un coup d'épée. Il se trouvait à présent dans une pièce mal éclairée, face à des sorciers réunis en demi-cercle, une petite silhouette flageolante agenouillée sur le sol.
« Qu'est-ce que tu viens de me dire ?»
Il avait une voix aiguë, glacée, mais la peur et la fureur brûlaient en lui. la seule chose qu'il avait redoutée. Mais ce ne pouvait pas être vrai. Il ne voyait pas comment. Le gobelin tremblait, incapable de croiser le regard des yeux rouges, loin au-dessus des siens.
« Répète !»
murmura Voldemort.
« Répète !»«
Mais, maître !» balbutia le gobelin, ses yeux noirs écarquillés de terreur. « Mais, maître, vous, nous avons essayé de les arrêter, des imposteurs, maître. Ils sont entrés dans la chambre forte des Lestrange.
« Des imposteurs ! Quels imposteurs ? Je croyais que Gringotts avait des moyens de démasquer les imposteurs. Qui était-il ?
C'était le jeune Potter et deux complices.
Qu'ont-ils pris ?
Interrogea-t-il d'une voix plus aiguë, saisi d'une peur terrible.
Dis-moi, qu'ont-ils pris ?
Une petite coupe en or, maître. Le hurlement de rage, de dénégation sortit de lui, comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait poussé. Il fut pris de folie, de démence. Ce ne pouvait pas être vrai. C'était impossible. Personne n'avait jamais su. Comment ce garçon aurait-il pu découvrir son secret? La baguette de sureau siffla dans l'air et une lumière verte explosa dans la pièce. Le gobelin agenouillé roula à terre, mort, et les sorciers prirent la fuite, terrifiés. Bellatrix et Lucius Malfoy bousculaient tout le monde sur leur passage, dans leur course effrénée vers la porte. Sa baguette s'abattit à plusieurs reprises, et ceux qui étaient encore présents furent foudroyés, tous, sans exception, punis d'avoir apporté la nouvelle, de lui avoir annoncé ce qui était arrivé à la coupe d'or. Seul, parmi les cadavres, il arpenta la pièce d'un pas furieux et il les vit défiler dans sa tête, ses trésors, ses sauvegardes, ses ancrages dans l'immortalité. Le journal intime avait été détruit et la coupe volée. Et si ce garçon connaissait l'existence des autres? Pouvait-il savoir? Avait-il déjà agi? Était-il sur leur piste? Dumbledore se trouvait-il à l'origine de tout cela? Dumbledore, qui s'était toujours méfié de lui. Dumbledore, tué sur son ordre. Dumbledore, dont la baguette lui appartenait désormais et qui pourtant, par-delà l'ignominie de la mort, se manifestait à travers ce garçon. Ce garçon! Mais si celui-ci avait réussi à détruire l'un de ses horcruxes, lui, Lord Voldemort, l'aurait forcément su. Il l'aurait senti, n'est-ce pas? Lui, le plus grand de tous. Lui, le plus puissant. Lui, qui avait supprimé Dumbledore et combien d'autres hommes sans valeur et sans nom. Comment Lord Voldemort pourrait-il l'ignorer si lui-même, le plus important, celui dont la vie était la plus précieuse, avait été attaqué, mutilé? Il est vrai qu'il n'avait rien ressenti lors de la destruction du journal intime, mais c'était, pensait-il, parce qu'il était privé de corps, étant à l'époque moins qu'un fantôme. Non, les autres étaient sûrement à l'abri. Les autres horcruxes devaient être intacts. Il fallait cependant qu'il sache, qu'il soit sûr. Il continua à faire les 100 pas dans la pièce, écartant d'un coup de pied le corps du gobelin, et les images se brouillèrent, s'enflammèrent dans son cerveau bouillonnant. Le lac, la masure et Poudlard. Il avait retrouvé à présent un peu de calme. Sa rage s'était tempérée. Comment le garçon aurait-il pu savoir qu'il avait dissimulé la bague dans la maison des Gaunt? Personne n'avait jamais su qu'il était apparenté aux Gaunt. Il avait caché ce lien, et on n'avait jamais fait la relation entre les meurtres et lui. La bague était en sécurité, il n'y avait pas lieu d'en douter. Par ailleurs, comment ce garçon, ou qui que ce soit d'autre, aurait-il pu connaître la caverne ou franchir ses défenses? L'idée qu'on vole le médaillon était absurde. C'était comme pour l'école. Lui seul savait dans quel endroit de Poudlard il avait caché l'horcrux, car lui seul avait exploré les secrets les plus obscurs du château. Et il y avait toujours Nagini, qui devait rester près de lui, désormais sous sa protection, ne plus être envoyé en mission ailleurs. Mais pour être sûr, vraiment sûr, il lui fallait retourner dans chacune de ses cachettes, redoubler les défenses autour de chacun de ses horcruxes. Une tâche comparable à la quête de la baguette de Sureau. Une tâche qu'il devait entreprendre seul. Par où commencer? Quel était l'endroit le plus exposé? Un sentiment de malaise déjà ancien remonta en lui. Dumbledore connaissait son deuxième prénom. Il pouvait avoir établi le rapport avec les Gaunt. Leur maison abandonnée était peut-être la moins sûre de ses cachettes. Et c'était là qu'il devait se rendre en premier. Le lac?
Oh, impossible à découvrir!
Bien qu'il existât une faible possibilité que Dumbledore ait eu connaissance de ses méfaits de jeunesse par l'intermédiaire de l'orphelinat. Et Poudlard?
Ah, il savait que son horcrux y était en sécurité. Potter ne pouvait pénétrer après Hollard sans être repéré, encore moins entrer dans l'enceinte de l'école.
Il serait toutefois prudent de prévenir Rogue que le garçon allait peut-être tenter de s'introduire à l'intérieur du château. Expliquer à Rogue la raison qui pouvait l'amener à y revenir serait bien sûr idiot. Il avait commis une grave erreur en faisant confiance à Bellatrix et à Malfoy. Leur stupidité et leur négligence ne lui avaient-elles pas prouvé à quel point il était mal avisé d'accorder sa confiance à qui que ce soit? Il se rendrait donc d'abord dans la masure des Gaunt et emmènerait Nagini avec lui. Il ne voulait plus se séparer du serpent. Il quitta la pièce, traversa le hall et sortit dans le jardin sombre où la fontaine déployait ses jets d'eau. En fourche langue, il appela le serpent qui ondula vers lui, telle une ombre longue et sinueuse. Les yeux de Harry se rouvrirent brusquement lorsqu'il s'arracha à sa vision pour revenir à l'instant présent. Il était étendu sur la rive du lac, dans le soleil couchant, sous le regard de Ron et d'Hermione. À en juger par leur expression inquiète et les élancements continus qu'il ressentait dans sa cicatrice, sa brusque incursion dans l'esprit de Voldemort n'était pas passée inaperçue. Il se redressa péniblement, parcouru de frissons, vaguement surpris d'avoir la peau encore humide, et vit la coupe, apparemment innocente, posée dans l'herbe devant lui. Le lac, d'un bleu profond, était parsemé des reflets dorés du soleil déclinant. Il sait. Sa propre voix lui parut grave et étrange, après les hurlements aigus de Voldemort. Il sait, et il va vérifier les cachettes des autres horcruxes. Le dernier, il s'était mis debout à présent, se trouve à Poudlard. Je le savais. Je le savais.
Quoi ?
Ron le regardait bouche bée. Hermione se releva, sur un genou, l'air préoccupé.
Qu'est-ce que tu as vu ? Comment peux-tu en être sûr ?
J'étais là au moment où il a appris ce qui s'est passé pour la coupe. J'étais dans sa tête, il est...
Harry se rappela les meurtres.
Il est... très en colère. Il a peur aussi. Il n'arrive pas à comprendre comment nous avons pu découvrir l'existence des horcruxes. Et maintenant, il veut être certain que les autres sont bien en sûreté. Il va commencer par la bague. Il pense que le mieux protégé est celui de Poudlard, parce que Rogue est là-bas, et parce qu'il serait trop difficile d'y entrer sans être repéré. Je crois que c'est le dernier qu'il ira vérifier, mais il se peut quand même qu'il y soit dans quelques heures.
« As-tu vu où se trouve l'horcrux de Poudlard ?» demanda Ron, en se relevant à son tour.
« Non. Non, il songeait surtout à avertir Rogue. Il ne pensait pas à la cachette.
« Attendez, attendez !»
s'écria Hermione, alors que Ron avait déjà ramassé la coupe d'or et que Harry sortait à nouveau la cape d'invisibilité.
« Nous ne pouvons pas y aller comme ça. Nous n'avons aucun plan. Il faut d'abord... »
« Nous devons partir tout de suite, » l'interrompit Harry d'un ton ferme. Il avait espéré pouvoir dormir, impatient de s'installer sous la nouvelle tente, mais ce n'était plus possible. Tu imagines de quoi il est capable quand il s'apercevra que la bague et le médaillon ont disparu? Qu'est-ce qu'on fera s'il décide que la cachette de Poudlard n'est pas assez sûre et qu'il déplace l'horcrux?
Mais comment va-t-on s'y prendre pour entrer?
On s'arrêtera d'abord après au lard, répondit Harry. Nous essayerons de trouver un moyen quand nous aurons vu le système de protection de l'école. Viens sous la cape, Hermione. Je veux que nous restions ensemble cette fois.
Mais on ne tiendra pas tous les trois.
La nuit sera tombée, personne ne verra nos pieds. Le battement produit par des ailes immenses résonna de l'autre côté de l'eau noire. Le dragon avait bu tout son soûl et s'élevait à présent dans les airs. Ils interrompirent leurs préparatifs pour regarder monter de plus en plus haut sa silhouette, devenue noire dans le ciel assombri, jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière une montagne. Hermione s'avança alors et se glissa entre les deux autres. Harry déploya la cape en la faisant pendre le plus bas possible, puis, d'un même mouvement, ils pivotèrent sur place et s'enfoncèrent dans l'obscurité oppressante.